9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Sébastien Salgado.
Bonjour Philippe.
Vous êtes l'un des plus grands photojournalistes mondiaux, sinon le plus grand. Je commençais en disant merci d'être ici dans Culture Média avec nous en direct. On est très touchés, un maître du noir et blanc. On vous présente parfois comme le photographe de la condition humaine. Vos livres, vos posters, vos calendriers, même vos mugs se vendent dans le monde entier. Et votre actualité, c'est un énorme livre de photographie, énorme à tous les sens du terme. Il s'appelle Amazonia. Il est accompagné d'une expo à la Philharmonie de Paris. Ça va démarrer le 20 mai, comme la sortie du livre qui est le 20 mai jusque fin octobre, avec un environnement sonore assez exceptionnel de Jean-Michel Jarre, conçu pour l'occasion. Livre extraordinaire, je l'ai dit. C'est chez Tachène, 530 pages, 100 euros. Ce sont, je vais essayer de faire court et simple, ce sont des tribus indigènes d'Amazonie que vous avez photographiées. Vous avez commencé quand ?
Écoute, dans ce livre et dans cette exposition, il y a les plus anciennes photos faites il y a un peu plus de 20 ans, 22 ans même.
Comment avez-vous été reçu la première fois par eux ? Vous écrivez des hommes et des femmes, des familles dont les ancêtres avaient habité ces forêts depuis des millénaires et qui étaient traités de primitifs.
C'est pas primitif du tout. Qui est dans cette forêt ? C'est nous-mêmes, c'est l'Homo sapiens. Ils sont simplement entrés en Amérique un peu avant les Espagnols, les Portugais. Ils sont arrivés il y a à peu près 20 000 années dans la dernière glaciation quand le détroit de Bering c'était un pont. Et donc on a pénétré en Amérique. Et on a pénétré en beaucoup de vagues différentes.
Ouais.
C'est venu tous de l'Asie, mais avec des langues différentes, des habitudes différentes. Et on a occupé l'Amérique de manière très différente. Ces Indiens ont fini pour arriver en Amazonie en plusieurs époques et de beaucoup d'endroits différents.
Et ce qui est très, très fascinant, c'est que vous êtes au plus près des familles. On les voit vivre, on les voit pêcher, on les voit chasser, on les voit rigoler, on les voit faire la fête, on les voit danser. Comment vous avez été accueilli ? Alors déjà, première question technique. Depuis 88, il est interdit d'approcher ces tribus. Comment avez-vous fait, Sébastien Salgado ?
Non, c'est interdit d'approcher les tribus qui n'ont jamais été contactées. Il y a une grande différence. Dans l'Amazonie brésilienne, il y en a à peu près 102 groupes qui n'ont jamais été contactés. Cela, c'est interdit, le contact est fait si eux, ils veulent un contact.
Mmh.
Mais les tribus que j'ai travaillées, c'est des tribus déjà contactées, et certaines déjà contactées depuis très très longtemps.
Mais vous étiez, quand vous étiez avec eux, vous étiez à distance, par exemple, vous ne mangez pas avec eux, vous apportiez votre nourriture.
On était obligés. La FUNAI, la Fondation Nationale des Indiens, qui m'a autorisé la pénétration dans le territoire, ils sont très stricts. Au meilleur, ils étaient très stricts. Parce que l'histoire de la FUNAI, c'est une histoire ancienne. Celle qui a garanti une grande partie de l'Amazonie, territoire indien protégé par la loi. 25% du territoire amazonien est protégé par la loi, merci à la FUNAI. Mais aujourd'hui, la FUNAI a changé avec le gouvernement Bolsonaro. C'est une FUNAI beaucoup plus proche des propriétaires ruraux que des Indiens.
On va parler évidemment de la FUNAI et de l'arrivée de Bolsonaro a changé. Juste un mot, vous avez essayé de goûter leur nourriture. Je veux dire, pourquoi on voit ces photos, on est vraiment très frappé. Quand ils trimballent un singe, quand on découvre qu'il est mort ou qu'il a une lance dans le ventre parce qu'ils vont le manger, vous avez goûté ? Qu'est-ce que vous avez fait avec eux ?
J'ai goûté, oui, absolument. La FUNAI interdit qu'on prenne leur alimentation comme base de la nôtre.
Ouais.
Mais si les Indiens nous offrent, on accepte. Et j'ai essayé absolument toute leur nourriture. C'est des nourritures fraîches, incroyables, fantastiques. Et donc, j'ai essayé de tout, j'ai mangé un peu de tout, oui.
Il y a beaucoup de peuples, on ne peut pas tout raconter ici. Ce livre est tellement, tellement riche. Je vais parler d'une tribu, il s'appelle les Zoé, dans leur langue, ça veut dire « c'est moi ». On pensait qu'ils étaient disparus, parce que les jésuites en faisaient mention au XVIe siècle, et on les a retrouvés il y a seulement 30 ans. Ce que vous dites, les songeurs, c'est un peuple totalement pacifique et délicat. Ils n'ont ni chef, ni dieu. Les femmes ont plusieurs maris, l'un est chasseur, l'autre est pêcheur, un autre agriculteur, un autre est au foyer. Et alors, ils ne connaissent pas le mensonge. Et il y en a un qui voulait avoir votre couteau, raconter la suite.
C'est juste, il voulait avoir mon couteau suisse. Je lui racontais une blague parce qu'il était très préoccupé. C'est une région qui a des énormes jaguars. Les jaguars sont très agressifs. Et donc, j'ai dit non, j'ai mon couteau suisse, je me défends. Je lui racontais une blague. Il s'est méfié un peu. Le lendemain, je l'ai Il m'a demandé à nouveau, il n'était pas sûr de ce que je lui racontais. Quand il a vu que c'était une blague, un mensonge, il n'a plus jamais me parlé. J'étais tellement choqué de la bêtise que j'ai faite. Et donc, vous savez, ces Indiens, je peux dire que les paradis sur Terre existent. Les paradis sur Terre, c'est l'Amazonie, la vie de ces Indiens, c'est la vie dans les paradis.
En tout cas, c'est l'image que donnent vos photographies. Vous restez avec nous, Sébastien Salgado. On va mieux vous connaître. C'est Hélène Manarino, j'arrive à le dire, qui arrive. Le portrait inattendu, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de l'immense photographe Sébastien Salgado qui signe Amazonia, ça sort chez Taschen le 20 mai avec également une immense exposition à la Philharmonie de Paris. On va vous la détailler, on va mieux vous connaître Sébastien Salgado avec Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est l'heure du portrait inattendu.
Bonjour Sébastien Salgado, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Votre rêve d'enfant, devenir pilote, surtout à l'âge de 12 ans. D'ailleurs, vous êtes allé passer un concours au Maracana à cet âge-là. Vous avez pris le train. Pour la première fois, vous êtes parti loin de votre famille. Vous êtes parti 15 jours. Vous n'avez pas pu attendre les résultats de ce concours car votre famille vous manquait trop. Et l'image de votre maman qui vous attend sur le quai à votre retour est gravée à vie dans votre mémoire. Alors, Sébastien Salgado, on ne va rien survoler aujourd'hui, mais je vous propose de continuer finalement à photographier quelques instants précis de votre existence. Restons sur votre jeunesse. Vous avez grandi dans un petit village, isolé de tout. La ville était à une journée, à cheval. Vous aimiez regarder Capitaine Marvel, Tarzan. Une photographie pour vos occupations, prendre des bains dans le ruisseau, marcher dans la ferme avec vos copains. La plus belle image, cette ferme familiale, quand il y avait de gros nuages presque noirs juste avant la pluie. Restons d'ailleurs à cet endroit, à l'intérieur de cette ferme, il y avait une étable où il fallait séparer le grain du maïs pour ensuite transformer le grain en farine. Votre mission était de passer le balai. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui vous le passez avec beaucoup d'énergie et de conviction.
Quelle info, Hélène.
Quelle info, absolument. Je suis étonné.
Elle est très forte.
Enfant coquin, surtout avec Jefferson, Lessa, vos amis avec qui vous avez fait les 400 coups. Une bande d'amis remplie de rêves et d'objectifs. La lumière était surtout mise sur le sport, plus particulièrement le foot. Et d'ailleurs, un jour, il y avait un match important dans votre village avec une grande équipe de Rio. Vous n'aviez pas pu y aller car vous aviez du travail à la ferme. Alors vous êtes allé en haut d'une colline pour entendre le bruit du stade.
Que c'est beau. Vous voulez dire quelque chose ?
Vous savez tout ça, c'est étonnant quand même.
Elle sait tout, Hélène. Mais tout, l'anecdote est authentique.
Non, c'est vrai, absolument.
Que c'est beau de voir un match comme ça. Vous avez les yeux un peu humides, Sébastien Salgado.
Ah oui,
Hélène.
Mais je suis étonné. Je suis vraiment étonné que vous savez tout ça. C'est des détails dans ma vie tellement privée.
Vous séchiez les cours aussi pour aller vous baigner dans le grand fleuve d'Ossé, j'espère que je le prononce bien, sans le dire à votre maman. Enfin, vous ne séchiez pas les cours de Madame Estella Régis, votre professeur de musique qui vous a beaucoup marqué. Sébastien Salgado, vous étiez exposé aux choses simples, vos parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient la plus belle des richesses, l'amour. Vous regardiez la télé par la fenêtre de vos voisins. À l'approche de Noël, vous perdiez systématiquement vos jouets. Le Père Noël familial vous les ramenait chaque année. Lorsque vos parents vous achetaient des chaussures, vous utilisiez d'abord le pied droit et ensuite le pied gauche. Cela vous permettez de garder vos chaussures plus longtemps. Une éducation avant tout dans la bienveillance, la douceur. Votre maman achetait un thé au Brésil qui avait une sorte de pouvoir. Elle disait « Si on se baigne dans ce thé, notre vie sera remplie de voyages. » Comme vous êtes parti vite de la maison, elle a toujours dit « Je n'aurais jamais dû le laisser tremper aussi longtemps, mon fils. »
Alors... Oh là là, quelle poésie, c'est trop beau.
Exactement ça, c'est juste.
Ouais. Vous êtes très ému, Sébastien.
Oui, parce que c'est des choses... qu'on connaît de ma vie, mais chez moi. C'est la première fois qu'on met en public.
Vous n'aviez jamais utilisé d'argent quand vous êtes parti vers la grande ville. Vous étiez gêné de devoir donner des sous à des gens dans des magasins. Donc pendant une semaine, vous n'avez pas mangé. Vous n'osiez pas vous acheter de la nourriture. Sébastien Salgado, vous n'aviez pas assez d'argent pour vous marier aussi. Alors vous avez passé un concours pour recevoir la bourse de l'école de Sao Paulo. Personne ne vous imaginait gagner ce concours. Vous travailliez jour et nuit à la bibliothèque. Vous avez réussi. Vous avez eu cette bourse et vous avez pu vous marier. Votre objectif, C'était aussi celui-ci, Sébastien Salgado, de devenir photographe. Vous n'avez pas voulu abandonner non plus votre rêve de devenir pilote. À l'âge de 65 ans, vous avez décidé de passer votre brevet. Un jour, le commandant vous laisse les commandes pour atterrir. Vous exécutez, vous entendez « les gars », ce qui veut dire très bien en portugais. Mais ce n'était pas « les gars » qu'il vous disait, mais « les gaz ». Vous avez failli avoir un accident.
Oh mon Dieu.
Ouais. Alors, continuons et prenons la dernière photo de ce portrait, celle de votre vie aujourd'hui. Dès le réveil, vous préparez les assiettes de fruits pour votre femme et votre fils Rodrigo. Vous aimez cuisiner des spaghettis à la carbonara, vous vous promenez dans la forêt tous les samedis. Vous dites souvent « on se fait rouler dans la farine ». Vous riez aux éclats avec les phrases de votre petite fille Nora, âgée de 3 ans. Vous écoutez les plus belles musiques brésiliennes aussi. Vous chantez toujours en travaillant. Vous aimez faire de grandes tables pour recevoir tous vos amis. Bref, la photographie parfaite d'un bonheur que vous êtes allé chercher pendant toutes ces années. Sébastien Salgado, vos photos sont devenues incontournables. Vous captez des moments de vie pour que cette vie, justement, elle devienne encore plus belle.
Incroyable. Que c'est émouvant. Merci beaucoup, Hélène Manarino.
Merci beaucoup, mais je suis étonné comment vous avez pu avoir toutes ces informations. Parce que là, il y a des informations, des époques différentes et des sources différentes là-dedans.
Ouais.
Et donc,
elle donne pas ses secrets, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la manière dont vous êtes touché au cœur et la manière dont on comprend l'humanité qu'on trouve parfois dans vos photographies. Grand moment de radio. Merci Hélène Manarino.
Avec
à demain.
Plaisir.
Vous restez
Merci.
Avec nous, Sébastien Salgado.
Merci, Hélène.
On va
Merci
parler
beaucoup.
De musique. On va continuer à parler de musique. À tout de suite, Culture Média continue.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je montre ce livre sur europe1.fr, Amazonia, signé Sébastien Salgado, 530 pages, je vais dire 3 kilos à vue de nez, 100 euros. Et il y aura aussi une exposition, ça va sortir le même jour, ça sera le 20 mai à Amazonia, à la Philharmonie de Paris. Une exposition assez grandiose, accompagnée de musique. C'est Jean-Michel Jarre qui a conçu une musique tout spécialement. Amazonia, le disque, quand il a sorti, était en tête des ventes techno, c'était en avril dernier. On va entendre quelques notes. Sur cette musique, on entend quelques notes de Jean-Michel Jarre. Comment avez-vous travaillé avec lui?
Ma femme Lélia, qui dessine tous mes livres, qui est le commissaire et fait la scénographie de toutes mes expositions, elle voulait les sons de l'Amazonie dans l'exposition. Et en discutant avec les gens de la Philharmonie, ils nous ont proposé de rencontrer Jean-Michel Jarre et qu'ils avaient discuté un peu avec lui. Ils voulaient nous rencontrer aussi. Et c'était un énorme plaisir de rencontrer Jean-Michel. Il a fait une énorme recherche sur les sons de l'Amazonie. Et cette musique, c'est l'addition des sons de l'Amazonie avec sa contribution musicale. Et ça sera le fil conducteur de l'exposition. C'est une musique longue, elle fera à peu près 52 minutes.
Ouais.
Et elle tournera en boucle. Et c'est suffisamment long pour faire la continuité de l'exposition.
Ce qu'on entend, les sons qu'on entend sont des sons authentiques. Jean-Michel Jarre n'est jamais allé en Amazonie, mais tous ces sons viennent du musée d'ethnographie de Genève. On entend la pluie, des arbres et aussi des sons des tribus de là-bas qu'il a mélangé avec sa musique à lui. Et la musique sera diffusée dans toute l'expo. Pendant qu'on se balade, on aura cette ambiance sonore-là.
C'est juste.
Angèle Châtelier.
Génial, hein, ça donne envie, non?
J'étais certain que ça allait vous plaire.
Ouais.
On va parler de musique avec vous, mais dans un genre totalement
oui.
différent.
Oh, là, oui.
Et là, c'est tout frais, car on vient d'apprendre la programmation des Francofolies de La Rochelle, qui vont donc se dérouler en juillet, car oui, des festivals, il y en aura.
Oui, même si cette 36e édition des Francofolies n'auront pas la même saveur que d'habitude, avec un certain nombre de contraintes sanitaires que je vais vous détailler. Mais avant toute chose, quand même, concentrons-nous sur la programmation et les têtes d'affiche. Jean-Louis Aubert, Marc Lavoine, Jane Birkin, Alain Souchon, une carte blanche à Francis Cabrel. Et puis on disait, écoutons-la, Jane Birkin.
Elle se fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire. Elle jouait toutes deux aux jeux interdits.
Alors tout dépend quel sens on donne à Jeux Interdits, parce que cette fois-ci, le public ne sera pas collé serré comme habituellement.
Non, la règle pour l'instant, c'est 5000 personnes maximum qui seront assises. Passe sanitaire obligatoire à l'entrée, à savoir un certificat de vaccination ou un test PCR négatif. Mais alors Gérard Pont, le directeur du festival, est heureux et dans les starting blocks, m'a-t-il dit.
On est à fond et toutes les équipes sont motivées. Et voilà, on va faire en 3 mois ce qu'on fait d'habitude en 1 an, mais... C'est aussi ça le défi et c'est aussi une nouvelle manière d'appréhender le festival. Donc je crois que on a tous envie d'écouter de la musique, d'avoir de l'émotion ensemble, d'entendre des gens chanter. Il y a 40 jeunes talents hein, entre le chantier des Francofoyers 2020 et 2021 qui sont là, qui brûlent d'impatience de présenter leur spectacle au public. J'espère que le public sera là, quoi. J'espère qu'on aura tous envie d'être au rendez-vous. Enfin, en tout cas, nous, on y sera.
Et Gérard Pont parlait de découverte musicale, Angèle. Les festivals, ça sert également à ça.
Oui, je vous parlais des têtes d'affiche. Je pourrais aussi citer Vita et Slimane, Louis Chédid, Benjamin Biolay, Pomme. Mais un festival, c'est aussi et surtout ce qui permet de faire des découvertes musicales. Place donc à Bonnie Banane, qui sera sur la scène La Coursive au Théâtre Verdière cet été.
Qu'est-ce que j'ai fait comme si de rien n'était. Alors j'oublie tout ce que je sais.
Alors, Bunny Banane, je trouve, est un mélange divin entre Lio, Brigitte Fontaine, Mary J. Blige pour le côté R&B. Voilà, ça c'est une découverte parmi donc une quarantaine d'autres, parce que les Francofolies de La Rochelle, c'est aussi le chantier des Francos, un dispositif d'accompagnement pour artistes émergents par lesquels sont passés des artistes comme Pomme, Suzanne Lompel, Christine and the Queens et plein d'autres.
Et puisque vous en parlez, Suzanne et Pomme vont jouer aussi cette année, mais en majesté aux Francofolies.
En tête d'affiche, ça y est, comme Magenta, qui ne sera pas en tête d'affiche, une autre découverte. Mais alors, je sais pas si vous vous souvenez, Philippe, du groupe Fauve.
Oui, j'adorais.
Tant pis si on nous prend pour des demeurés. Bien sûr qu'on sait qu'ici c'est pas Hollywood, sauf que dernière nouvelle, le fantasme c'est encore gratuit. Et ouais. C'est pour ça qu'on se réfugie dans nos pensées, qu'on ferme les yeux très fort jusqu'à voir des couleurs en attendant que ça passe. Y'a que comme ça qu'on peut rêver de caresses au réveil et de regards qui veulent dire t'inquiète plus, t'inquiète plus. De coups de poing dans le cœur, de 40e qui rugissent dans nos poumons, à faire sauter les côtes, de torrents dans nos veines, d'une épaule pour pleurer sans honte et d'une oreille pour tout dire, toujours quoi qu'il arrive. De serment argent.
Vous en souvenez pas ou pas cette chanson?
Non, pas du tout, mais je me rappelle de cette manière de chanter plutôt de faire une sorte de scansion, ouais, un peu comme du slam sur de la musique.
Ouais, c'était génial. Fauve est mort, mais vive Magenta, le collectif d'artistes qui a cartonné au début des années 2010, revient avec un nouveau projet musical qui s'appelle donc Magenta. Mais alors vous allez l'entendre, c'est quand même beaucoup plus électro, plus dansant. Et ils seront aux Francofolies de La Rochelle le 11 juillet.
Les années passent, je suis plus si jeune. Peut-être pas vieux, mais dépassé. J'ai pas l'amour, j'ai même pas le permis. Juste ton souvenir et les synthés. Moi j'ai jamais su que j'actais sur du boom bap, tu le sais. Moi j'ai jamais su que j'actais sur du boom bap, tu le sais. Moi j'ai jamais.
On va danser donc au Francofolies de La Rochelle, ce sera du 10 au 14 juillet et qu'est-ce que ça fait du bien de s'y projeter.
Merci beaucoup Angèle Châtelier, vous écoutez quelle musique en ce moment Sébastien Salgado, parce que je sais que vous écoutez beaucoup de musique.
J'écoute beaucoup de musique, mais beaucoup de musique brésilienne bien sûr, mais je suis un ancien de la musique. J'écoute beaucoup encore les bossa nova, je trouve que c'est une contribution musicale majeure et qui... Ces Brésiliens de cette époque qu'on fait.
Ouais, on est d'accord avec vous. Et ce que vous racontez aussi dans ce livre absolument somptueux, je l'ai déjà dit, c'est que dans les tribus d'Amazonie, ils passent leur vie à chanter.
Ils chantent beaucoup, mais ils chantent surtout dans les grands festivals, dans les grandes concentrations, vous savez.
Attendez, ils ont des festivals en Amazonie ?
Et beaucoup des Indiens, oui, absolument.
Ah, je vais y aller.
Oui. Des grands festivals.
J'adore imaginer ça. On parlait du groupe Magenta, oui. Angèle, on les écoute.
Qui ne sera pas en Amazonie, mais on va les écouter quand même. Voici donc leur titre Monogramme sur Europe 1, avant donc de les retrouver au Francofolies de La Rochelle.
Dans le flot. Ce télescope, je distingue maintenant un constat naze.
Dans un instant, notre deuxième indispensable, Nicolas Caro, après qu'on a entendu ce titre dont j'ai oublié le nom à l'instant, Magenta, ça s'appelait, voilà. Il a enquêté sur le dernier roman policier de Franck Thillier. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Sébastien Salgado, le photographe, on va parler livre avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe.
Nicolas, ce matin, vous êtes venu avec le dernier roman de Franck Thillier.
Chez Fleuve Noir, on dit Thillier. C'est le dernier, mais ça aurait pu être le premier. Ça s'appelle 1991, sous-titré La première enquête de Charcot, Franck Charcot, qui est le héros récurrent de Franck Thillier.
J'aurais pu savoir qu'il s'appelait Thillier, vu qu'il est déjà venu deux fois.
Mais tout le monde fait l'erreur.
Il est déjà venu deux fois dans cette émission et j'ai déjà posé la question comment on prononce son nom. C'est sa première enquête, c'est donc ce qu'on appelle dans les séries un préquel.
Exactement, on revient aux sources. Franck Thillier a voulu en savoir plus sur son propre personnage.
Il y a plusieurs raisons. C'est un personnage que j'ai créé au début des années 2000. Il avait 43 ans et j'ai grandi avec ce personnage, puisque aujourd'hui je continue à écrire des histoires avec lui dans le présent, en 2021. Mais j'ai vieilli avec lui et je me suis rendu compte finalement que je connaissais assez peu le passé de ce personnage, de savoir d'où il venait, pourquoi il avait exercé ce métier, qu'est-ce qui était à l'origine de son obsession pour la traque des criminels, pourquoi il était devenu policier et pourquoi quelqu'un du Nord, comme lui, qui a grandi un peu dans les corons, se retrouvait un jour au 36 Quai des Orfèvres, qui est le service le plus prestigieux de la police.
Mais pourquoi ? Puisque c'est le titre 1991 en particulier.
Alors parce que ça colle plus ou moins avec la carrière de Charcot, mais pas seulement.
Il y a plein de petits détails qui font que c'était cette année-là. Alors, à titre personnel, c'était l'année de mes 18 ans, donc j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et 91, c'est une année extrêmement importante aussi dans le milieu policier. Et ça, je l'ai vraiment vu en creusant cette époque-là, 90, 91, 92. C'est l'arrivée au ralenti de la technologie. Je le dis dans le roman, les ordinateurs sont là au 36, mais ils sont encore dans les cartons. Personne ne veut les ouvrir parce qu'on a peur. En fait, les ordinateurs font peur. Et donc, c'est vraiment un moment de transition entre les anciennes méthodes de la police qui venaient un peu sur leur fin et puis l'arrivée de toutes ces technologies, les fichiers informatiques, la police scientifique qui va transformer un peu la manière de travailler des flics.
Et la technologie, ça change tout dans une enquête.
Ah bah oui, avec l'ADN par exemple, qui n'était pas encore utilisé à l'époque, c'est beaucoup plus simple maintenant, mais pas seulement ça, il n'y avait pas de téléphone portable en 91. Et donc quand Charcot doit prévenir ses collègues pour avoir du renfort, il faut d'abord qu'il trouve une cabine téléphonique. Tout va beaucoup plus vite maintenant, et donc c'est ça ce qui est intéressant, le rythme de l'histoire et de l'écriture, et même du style de Thillier, ne sont pas du tout les mêmes que d'habitude. C'est plus à l'ancienne, l'enquête prend plus son temps, c'est moins frénétique, il faut attendre le fax, quoi. Parce qu'on s'amuse aussi à se rappeler la vie d'avant la révolution numérique.
Mais alors justement, l'histoire, ça raconte quoi ?
Ça commence avec un type, Philippe, dans le métro, qui écoute son Walkman.
Ah oui,
il rentre chez lui. Il ouvre sa boîte aux lettres. Il y a une facture France Télécom.
Ça existait aussi.
Et une grosse enveloppe Kraft. Il ouvre et dedans, il y a un livre et un petit texte. Une lettre qui commence par « Cher Philippe ». Et ensuite, ça ressemble un peu à une arnaque ou un tract de secte. Il dit, ça continue, « Je sais que tu es doté de facultés intellectuelles incroyables. Ferme les yeux, pense à un prénom féminin. » Alors Philippe, sans réfléchir, pense à Delphine. Bon. Ensuite, « Ouvre le livre, page 122, et lis le 14e vers. Ce sont les fleurs du mal. »
Et là, il y a Delphine ?
Exactement. Dingue, wow. Comme un tour de mentaliste, si vous voulez. Et la lettre continue et explique à Philippe que s'il veut aller plus loin dans ses capacités télépathiques, il doit se rendre à une adresse dans le Marais à Paris et récupérer une enveloppe dans une autre boîte aux lettres. Je vous la fais courte, Philippe y va, trouve l'enveloppe et dedans, il y a une photo avec une femme qui vient manifestement d'être torturée. Il va tout de suite au 36 quai des Orfèvres et il tombe sur Charcot. Et c'est parti, le jeune Charcot.
Et là, on a envie de savoir, mais on ne peut pas savoir. Merci beaucoup. Ça s'appelle 1991, c'est signé Franck Tillier, c'est chez Fleuve Noir. Merci Nicolas Carreau. Vous êtes un grand lecteur de polar ou pas du tout ?
Pas mal.
C'est vrai ?
J'ai lu beaucoup, beaucoup. Tu vois, avant, il fallait que j'apporte une valise des livres avec moi, parce que je passe 3-4 mois dans des endroits complètement isolés. Aujourd'hui, avec un Kindle, j'amène tout. Et j'adore les polars. Celui-là, absolument, je vais l'avoir.
Voilà, je pense que les gens de chez Fleuve Noir, écoute, ils vont vous l'envoyer. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. Vous restez avec nous. On va parler de livres, on va parler d'arbres, de déforestation, d'Amazonie, de photographie, de mille choses encore. Sébastien Salgado dans Culture Média. On s'en réjouit. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Sébastien Salgado qui publie Amazonia, le fruit de plusieurs années de travail chez les tribus très reculées, parfois inédites, d'Amazonie. Alors, j'ai pas encore dit, on voit votre travail auprès des tribus, mais il y a aussi votre travail de la terre. Il y a des photographies aériennes que je n'avais jamais vues. Il y a des images de nuages comme jamais on les a vues. Cette phrase est tarte à la crème, mais vraiment, j'avais jamais vu le monde, la planète, comme vous l'avez photographié. Et vous dites, vous avez découvert ça, il existe des rivières aériennes, des rivières volantes au-dessus de l'Amazonie. C'est quoi ?
C'est un concept tout à fait nouveau que les scientifiques viennent de découvrir. C'est que normalement, les systèmes de distribution d'humidité dans la planète des pluies viennent d'une évaporation des océans. Mais le seul endroit au monde où ne dépend pas de cette évaporation, c'est l'Amazonie. Les arbres de l'Amazonie, normalement les arbres adultes, c'est la grande majorité, elles évaporent chacune à peu près entre 1000 et 1200 litres d'eau par jour. Ces milliards d'arbres, elles créent un flux d'humidité, un système de nuages tellement dense qu'une partie se précipite à nouveau, pleuve sur l'Amazonie, une autre partie se transforme en un nuage de très haute altitude qui se fond dans la planète. Une partie d'humidité qu'on reçoit ici en Europe vient de l'Amazonie. Donc l'Amazonie, elle n'est pas seulement essentielle pour l'écosystème, pour la plus grande réserve d'eau au monde, pour cet endroit où on trouve la plus grande concentration des tribus au monde, mais c'est très important aussi pour la distribution d'humidité dans la planète à travers de ces rivières volantes.
Alors, vous dites aussi, après le danger qui est arrivé par les conquistadors à la fin du 15e siècle, il y a eu la migration qui est arrivée du sud du pays, qui a conduit à une déforestation d'une partie de l'Amazonie pour faire place notamment à l'élevage de bovins, à la culture de soja. Pourquoi j'en parle ? Parce que cette déforestation est encouragée par le président actuel Jair Bolsonaro. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, votre compatriote brésilien ?
Non, jamais rencontré, j'espère jamais les rencontrer non plus.
Ah bon, pourquoi ? C'est pas bien de parler avec ses ennemis ?
Écoute, M. Bolsonaro, c'est pas une personne fréquentable. C'est un homme difficile, un homme violent. Il est en train d'introduire d'armes partout au Brésil, quand c'était interdit par la loi, que chaque citoyen ait une arme. Il est contre les minorités noires, et il est contre les femmes, il est contre les Indiens. C'est un personnage du mal. Son comportement qu'il a aujourd'hui avec la protection du peuple brésilien contre le Covid, c'est un vrai génocide.
Alors vous dites, j'ai lu ça dans le JDD ce dimanche, cette phrase je l'ai relue pour être certain que vous ayez vraiment dit ça. Vous dites, paradoxalement, c'est presque une bonne chose le Covid pour l'Amazonie. Je vous cite, « Avant le Covid, les Brésiliens s'en foutaient complètement de l'Amazonie. Depuis cette année, elle est passée au premier plan de leurs préoccupations. »
je ne peux pas dire que c'était une bonne chose pour l'Amazonie.
Ça, c'est
COVID.
Moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit.
C'est toi qui dis, parce qu'on a perdu beaucoup de vies humaines, beaucoup d'Indiens avec le Covid.
Mais en quoi ça a attiré l'attention sur l'Amazonie, le Covid ?
On a organisé avec Lélia, ma femme, au mois, la fin avril, début du mois de mai, l'année dernière, un grand appel aux autorités brésiliennes, aux trois pouvoirs brésiliens, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, avec la signature de plus de 60 grandes personnalités de la planète entière. Et on a acheté un espace dans les journaux brésiliens en demandant que les gouvernements brésiliens, des trois pouvoirs, créent une ceinture sanitaire de protection aux Indiens dans l'Amazonie parce qu'ils étaient menacés de destruction totale. Les Indiens n'ont pas d'anticorps pour les maladies qui viennent de dehors de la forêt. Et ça, il y a un effet tellement incroyable au Brésil. Toute la presse a parlé. Et à partir de ce moment, on a eu un réveil énorme des préoccupations sur la vie des Indiens et avec elle de la protection de l'écosystème amazonien. C'était une de mes préoccupations amazoniennes avant le début du Covid, une autre préoccupation maintenant. Maintenant, les Brésiliens se préoccupent par l'Amazonie.
Pour qu'on ait une idée des gens qui vous soutiennent, montrer à quel point vous êtes une star mondiale pendant qu'on entend la musique de Jean-Michel Jarre, y a Sting, Gilberto Gil, des comédiennes comme Meryl Streep, Juliette Binoche, Guillermo del Toro, le réalisateur, Pedro Almodovar, Nicolas Hulot, le prince Albert. Et j'aime beaucoup la conclusion de votre livre. Je souhaite, écrivez-vous, de tout mon cœur, de toute mon énergie, que d'ici à 50 ans, ce livre ne ressemble pas à un registre d'un monde perdu, c'est-à-dire qu'il continue à vivre et à se survivre et que ces civilisations continuent à exister. Un grand, grand merci Sébastien Salgado. Je rappelle ce livre de photographie Amazonia accompagné d'une expo à la Philharmonie de Paris. Tout va arriver le 20 mai avec cet environnement qu'on entend. On entend ces feux de bois qui crépitent dans l'Amazonie. Environnement sonore et musical signé Jean-Michel Jarre. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Plaisir partagé. Demain, nous, on se retrouve à 9h pour Culture Média. On sera avec un duo électro-parisien qui cartonne dans le monde entier. Plus d'un milliard de streams en 4 ans. 16 disques de platine et 10 disques d'or. Non, c'est pas Daft Punk, c'est Offenbach. Et puis, on parlera aussi d'un mensuel dédié aux jeux vidéo sur PC. Le titre fait ma joie, Canard PC. On sera avec son rédacteur en chef, Yvan Godet. À demain, bonne journée sur Europe 1 après le Flash. C'est Anne Romanoff, salut.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.